ici, en moi, dans ma conscience, en ce moment. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de « je », il n'y a pas de « nous », mais il y a un « ici » qui est entièrement occupé par ce qui se présente. Et puis ça part, et quelque chose d'autre l'occupe. C'est ce que je voulais dire.
Entendre encore et relire Nathalie Sarraute, 20 ans après sa disparition, la Bibliothèque nationale de France organise un colloque et Anne Jefferson lui consacre une biographie. Première biographie consacrée à cette femme de lettres, née Natalia Tcherniak en 1900 à Ivanovo en Russie et décédée à Paris à quelques mois du 21e siècle. Longue gabardine, cheville croisée, coupe au carré sur le trottoir devant le siège des éditions de minuit, elle est la seule femme du nouveau roman, du moins sur la photo qui consacre ce groupe d'écrivains qui, en 1960, révolutionne l'art du roman et fait voler en éclats psychologie et personnages. À ce jour, le dernier grand mouvement littéraire français. Immense auteur, donc immense autrice, devrais-je dire, à laquelle nous allons consacrer deux émissions aujourd'hui, dans De Vive Voix et demain dans Littérature sans frontières, avec pour trait d'union Anne Jefferson, sa biographe. Bonjour.
Bonjour.
Reprenant le titre de l'émission, nous allons nous intéresser à la voix de Sarraute. Dire d'un écrivain qu'il a une voix peut paraître paradoxal, on dit plus souvent qu'il a un style, mais je trouve qu'avec Sarraute, le terme de voix s'impose.
Tout à fait. D'abord, comme on vient de l'entendre, elle avait elle-même une très très belle voix, une voix qu'on voulait écouter, une voix qui a d'ailleurs évolué tout au long de sa carrière. Quand on entend les premiers entretiens, elle parle plus rapidement, ça fait un petit peu l'effet mitrailleuse, mais par la suite, la voix s'est adoucie. Donc, elle lisait très volontiers ses propres textes, elle les lisait très très bien, avec sa belle voix. Et en fait, il me semble, pour bien apprécier Nathalie Sarraute, on fait mieux de l'écouter lire que de lire pour soi-même.
Ah bon?
Ah bon, absolument. Parce que elle a une façon de ralentir la lecture. Le danger chez Nathalie Sarraute, c'est qu'on lise trop rapidement. Elle fait ralentir son écriture. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que en écrivant, elle prononçait tout ce qu'elle écrivait pour elle-même, elle chuchotait en écrivant, donc elle avait un sentiment, une oreille très fine pour savoir comment ça allait être à l'écoute.
D'où l'importance des points de suspension dans son écriture souvent, c'est justement pour ralentir la lecture.
Absolument, oui.
L'incorporation de la parole dans l'écrit est un trait caractéristique de toute son écriture, écrivez-vous dans sa biographie.
Oui, c'est tout à fait ça, elle avait ce que Barthes, avec qui elle n'avait pas beaucoup de rapport, mais Barthes dit quelque part, et je trouve que c'est très très joli, il dit « J'ai une maladie, je vois le langage ». Et je crois que Nathalie Sarraute a la même maladie. Elle entend parler les gens, elle a l'oreille très fine, elle sait très bien reproduire la manière dont les gens se parlent. Donc, elle a une voix à elle, mais elle fait parler ses personnages qui ne le sont pas. Mais elle fait rentrer plusieurs voix dans son écriture.
Arnaud Rickner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur, metteur en scène. Vous allez participer avec Anne Jefferson au colloque de la BNF et vous avez consacré plusieurs essais à Nathalie Sarraute et au théâtre du nouveau roman. Est-ce que vous entendez Sarraute quand vous la lisez ?
Absolument, c'est exactement une des caractéristiques. Vous avez mis le doigt, je crois, sur ce qui fait la grande caractéristique à la fois du théâtre et de l'écriture romanesque de Sarraute, parce qu'en réalité, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux. On pourra peut-être en parler un petit peu. Mais c'est vrai que ce qui caractérise l'écriture de Sarraute, c'est sa manière de remettre du corps dans le langage. Et ce qui fait que ce n'est pas du tout un écrivain intellectuel, contrairement à ce qu'on peut dire ou peut croire parfois. On a souvent peur d'elle, parce qu'on se dit, oh là là, elle brasse des idées. Ce ne sont pas du tout des idées, c'est vraiment la manière dont le corps s'inscrit dans la parole, ou dans la parole prend en charge le corps. Et c'est à cela qu'elle est attentive. La manière dont on se tait, la manière dont on respire, dont on articule les mots ou ne les articule pas, les points de suspension sont là pour ça. En fait, c'est une sorte de brèche dans le langage, disons dans le verbe, le moment où le corps va surgir. les points d'exclamation, les petites anicroches de prononciation, tout ce qui passe du corps, finalement, dans le mot.
Alors, on aura l'occasion de parler du théâtre de Nathalie Sarraute, parce qu'essentiellement, elle écrit des romans du théâtre un peu d'essai. Rien d'autre, pas du tout de poésie, par exemple. Le théâtre, c'est assez tardif. Mais paradoxalement, beaucoup de ces textes, de ces romans, sont passés sur la scène. D'où l'importance de la parole.
Oui, et alors vous dites qu'elle n'a pas écrit de poésie, j'en suis pas si sûr. Parce que je pense même que toute son œuvre est une œuvre poétique. Simplement, ce n'est pas une œuvre poétique au sens peut-être du 19e siècle ou du 18e, avec des, de sens classique, c'est-à-dire avec des critères du poétique. Elle s'amuserait elle-même à mettre les guillemets là-dessus. En revanche, c'est du poétique au sens où Henri Mechenik parle justement du poème comme l'endroit où le corps traverse le langage, ce qui est exactement ce que fait Sarraute.
Il n'y a pas de poésie au sens d'une étiquette poésie sur le livre, et Dieu sait si elle détestait les étiquettes. L'un et l'autre, vous avez été des intimes, Arnaud Regner, vous faisiez même partie du petit cercle qui était là le jour de ses obsèques. Quels mots, quelles conversations vous gardez de Nathalie Sarraute ?
Alors des mots, finalement c'est plus sa présence en fait, justement on en revient peut-être à ça. Alors Dieu sait que sa conversation était intelligente, mais c'est surtout à la fois son regard aussi, c'est cette manière d'être aux autres en réalité, puisque ça n'est que ça son œuvre. C'est comment peut-on vivre avec les autres et comment rentre-t-on en lien avec les autres. Finalement moi c'est ça que je garde. Et puis des conversations, une conversation très étrange qu'elle avait eue avec ma fille qui avait 2 ans.
Mais voilà, elle faisait quoi, chose. Petite fille de 2 ans?
Je ne raconterai pas à la radio, mais c'était, elle avait une malice vraiment par rapport à l'enfant qui avait peur, par rapport à cette dame qu'elle sentait un peu importante.
Et qui était une petite dame en même temps.
Oui, tout à fait fragile. Et justement, c'était dans la fragilité que ça se jouait.
Elle avait une écoute, un regard particulier, Anne Jefferson ?
Un regard, oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle aimait beaucoup rire. Quand on était avec elle, on s'amusait beaucoup. Elle voyait toujours le côté comique des choses et elle racontait avec beaucoup de plaisir des anecdotes, des choses qui lui étaient arrivées. Et donc elle se riait d'elle-même, elle se riait de la vie et on riait ensemble. Si bien que moi, je me souviens de ses yeux, de son rire, de son sourire. Et elle voyait très bien le côté ridicule de la vie et elle s'en moquait royalement, mais pour s'amuser.
Et en même temps, elle était une grande anxieuse et une grande angoissée.
Mais je crois qu'elle a dû vivre ça dans le privé. Mais aussi dans l'écriture. Et je crois que pour elle, l'écriture avait un rôle double, en quelque sorte, par rapport à sa propre angoisse. D'une part, c'était le moyen de se soulager, de se sentir moins angoissé, mais en même temps, c'était le moyen de mieux vivre son angoisse. Parce que l'angoisse passait dans l'écriture, elle pouvait la creuser et en faire quelque chose de créatif, si vous voulez. Donc, il fallait absolument pas qu'elle se débarrasse complètement de son angoisse, mais en même temps, il fallait quand même qu'elle la maîtrise.
Et qu'elle l'évacue quand même de temps en temps, parce que c'est, la vie est plus légère sans angoisse. Les mots, les textes, les voix de Nathalie Sarraute, 20 ans après sa disparition, après un détour musical avec Serge Reggiani sur RFI.
Ton tour dans ta tête, tourne autour de tes planètes. C'est pas dit qu'il y en a 9, toutes carrées comme un œuf. En premier, ta mercure, n'y va pas faire une cure. T'es rapide comme l'éclair, t'as pas le temps de tenir ton verre. La deuxième, Vénus, cumulo et nimbus camouflé. Elle ne songe qu'à des tas de gros mensonges. La troisième, la plus belle, c'est la Terre éternelle. C'est bizarre, celle que j'aime bizarrement, c'est la troisième. Regarde la Terre. On n'y voit pas que des glaireux qui font la queue pour foutre le feu. Regarde la Terre. On n'y voit pas plus de bassine qu'on assassine sous la benzine. À ton tour, dans ta tête, tourne autour de ta planète. C'est pas dit, y en a 9, tout carré comme un œuf. La quatrième, c'est Mars, toute rouge. Elle marche toujours prête à la guerre et ça ne fait pas notre affaire. La cinquième, Jupiter, trempe son cul dans la terre. Que des gaz d'hydrogène, si tu crois que ça la gêne. La sixième, Saturne, bon, fait si ou si ça tourne. C'est bizarre, celle que j'aime, bizarrement, c'est la troisième. Regarde la Terre. On n'y voit pas que des guéreux qui font la queue pour foutre le feu. Regarde la Terre. On n'y voit pas qu'une bassine qu'on assassine sous la benzine. À ton tour, dans ta tête, tourne autour de ta planète. C'est pas diffiant la neuf, tout se carré comme un œuf. La septième, Uranus, n'intéresse que les Russes. Et encore, nanana, pour emmerder les Ricains. La huitième, Neptune, Dieu des fonds qui a pas une thune. C'est sauvage comme on voit, même la vie ne pousse pas. La neuvième, Pluton, Plutonium, ah, Pluton long. C'est bizarre, celle que j'aime. Bizarrement, c'est la troisième, regarde la Terre. On n'y voit pas que des verrues qui font la queue pour foutre le feu, regarde la Terre.
Serge Reggiani, Planétarium, juste un clin d'œil à l'un des romans de Nathalie Sarraute, son troisième paru en 1959 et qui lui vaut une reconnaissance internationale. Le Planétarium est traduit en anglais, en italien, en danois, en allemand et dans beaucoup d'autres langues. Anne Jefferson, vous qui êtes sa biographe, il faut revenir à sa jeunesse pour comprendre peut-être son intérêt pour la voix, ce qui est un des sujets de notre conversation aujourd'hui. À 20 ans, elle est avocate, elle déteste ça. Elle déteste le droit, mais elle brille dans la conférence de stage.
Oui, enfin c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Avant de devenir avocate, elle avait fait des études en Angleterre, une année d'études à Oxford, et puis elle est partie à Berlin pour faire des études aussi. Et du coup, elle était entre quatre langues. Et je crois que le fait d'être entre plusieurs langues lui a affiné l'oreille pour qu'elle puisse mieux entendre la façon dont les gens se parlent. Elle faisait très attention, ça fait partie de cette maladie qu'évoque Barthes. Donc ça faisait en sorte qu'elle entendait, elle voyait les langues. Et oui, à l'âge de 23, sans trop savoir ce qu'elle allait faire de sa vie, elle a fait des études de droit, elle est devenue avocate, ça ne lui a pas beaucoup plu. Et le seul moyen d'y trouver du plaisir, c'était de passer cette conférence du stage, où il fallait faire des discours autour de questions juridiques, mais qui avaient quand même une application actuelle, des questions soulevées récemment aux assises. Et là, à ce moment-là, elle a trouvé un langage beaucoup plus oral, beaucoup moins guindé que celui dont on se servait professionnellement. Elle détestait la manière dont les avocats s'exprimaient professionnellement. Mais là, elle a inventé un langage beaucoup plus souple qui s'adresse directement à un public, au lieu de faire comme il faut faire si on est avocat. Elle a échoué au deuxième tour, mais ça lui a révélé une possibilité qu'elle n'avait pas entrevue auparavant.
Et elle dit que cet exercice lui redonne l'usage de la parole, oui, qui sera d'ailleurs le titre de l'un de ses romans. Alors, si l'oralité est très présente dans l'œuvre de Sarraute, c'est pas tant la conversation qui l'intéresse, ce qu'on fait là entre nous, mais c'est la sous-conversation, notion très importante pour comprendre ce qu'écrit Nathalie Sarraute.
Ben, c'est les deux en alternance. Il n'y a pas de sous-conversation sans conversation qu'il faut commenter ou à laquelle il faut réagir. Mais ce qu'il y a dans cette sous-conversation, c'est tout à fait ce que Arnaud Rickner disait tout à l'heure, c'était la conscience très forte qu'avait Nathalie Sarraute de la rencontre avec autrui. On est toujours en face de quelqu'un, on ne parle jamais pour soi. Parler, c'est parler en réaction à quelque chose qui s'est produit, ou bien pour anticiper une réaction qu'on craint, ou des choses comme ça. Du coup, commenter une conversation, c'est forcément une sous-conversation. On imagine ce que pense l'autre et c'est dit sous forme de conversation qu'on a dans sa tête.
C'est dit dans les interstices de la conversation finalement que Nathalie Sarraute écrit. Et le ton est donné dès son premier texte en 1939, qui n'est pas à proprement parler un roman, mais plutôt un ensemble de textes baptisé Tropisme.
C'est un accroissement ou une progression d'un organisme dans une direction donnée sous l'influence d'une excitation extérieure. Et moi, j'ai voulu appeler tropisme des mouvements à peine conscients qui sont provoqués par les autres.
Ce sont des mouvements comme ceux des plantes qui sont attirés par la chaleur, la lumière, l'eau. Enfin,
exécutés presque à l'insu presque de ceux chez qui ils se produisent. En tout cas, en dehors, la plupart du temps, de leur volonté. C'est-à-dire que j'essaie, dans le portrait d'un inconnu par exemple, de retrouver les mouvements qui composent les actes d'un avare. Et alors montrer que l'avarice, si on commence à l'étudier de très près, sous cette forme-là, contient tout ce qu'on voudra. Ça peut contenir l'angoisse de la mort, ça peut contenir un besoin d'oppresser autrui, ça peut signifier un certain masochisme. Enfin, il y a des quantités de mouvements chez mon avare qui ne sont pas considérés habituellement comme faisant partie de l'avarice. C'est en somme une décomposition de la notion d'avare.
Nathalie Sarraute, en 1959, dans une émission intitulée « Les voix de l'avant-garde », alors ce travail sur la peine conscience, sur le subconscient et non pas l'inconscient qui emmènerait vers la psychanalyse ce qu'elle détestait, en fait c'est tout Sarraute. Anne Jefferson.
C'est absolument ça. Et il faut se rappeler que Nathalie Sarraute a commencé à réfléchir sur ce qui se passe dans notre esprit bien avant que la psychanalyse s'impose en France. Donc elle a eu une formation qui l'avait déjà alertée à une vie subconsciente, et ce terme de subconscient, c'est assez courant à l'époque, quand elle était au lycée. Et puis, grâce au psychologue Pierre Janet, auprès de qui elle a fait une cure pas très réussie, si on a bien compris. Et tout ça, c'était avant la psychanalyse. Donc, elle avait une façon qu'elle avait héritée de ses cours de philosophie, de penser ce qu'elle appelle le subconscient, qui s'est imposé avant la psychanalyse. Et la psychanalyse, elle a franchement détesté.
Capter les mouvements intérieurs, les voix intérieures. Arnaud Reckner, c'est Sarraute, ça?
C'est tout à fait Sarraute. Et pour rebondir un petit peu ce que vous avez dit, ce qu'Anne Jefferson a très bien dit, ce que vous avez dit aussi tout à l'heure sur cette histoire du entre, du sous, parce qu'effectivement, elle n'est jamais directement dans le mot. Elle est toujours sous le mot ou entre les mots.
Et du coup, il y a quelque chose de très très minutieux dans son écriture, quasiment du suspense. C'est d'ailleurs Sartre, dans la préface de Portrait d'un inconnu, parle de roman policier, je crois. Et elle-même disait « Les paroles sont l'arme d'innombrables petits crimes ».
Vous citez la même phrase parce que c'est en fait le langage chez elle, c'est assez violent. Elle fait comprendre à quel point les gens se font du mal avec les paroles qu'ils prononcent. Elle nous fait comprendre que parler, c'est agir. On est dans le moment, en parlant, il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose par rapport au tiers, par rapport à l'autre. Donc, alors... Oui. Du coup, la notion d'arme, parce que l'univers de Nathalie Sarraute, c'est un univers quand même plutôt violent.
Du coup, je ne sais pas si c'est la définition de la littérature, l'action, comme ça, le mot qui fait action, mais c'est la définition même du théâtre.
Tout à fait, et Anne vient d'employer une phrase magnifique, je ne sais pas si tu l'as citée exprès, mais parler c'est agir, c'est exactement ce que dit Daubignac, l'abbé Daubignac, donc de tout point de vue là, c'est tout à fait classique. Au théâtre, parler c'est agir. Et c'est pour ça que l'œuvre de Sarraute est aussi éminemment théâtrale. C'est qu'elle met en œuvre ce que fait la parole. Pas simplement ce que l'on dit, mais ce que l'on fait lorsque l'on parle.
En 1978, Nathalie Sarraute publie « Elle est là ». Donc c'est ses débuts au théâtre et elle s'entretient quelques années plus tard avec Tchela Minard sur RFI.
Vous voyez ça? Une belle petite idée, née en nous, toute fraîche et close, toute étincelante de vérité. Une libellule, un papillon de toute beauté.
Vous avez beaucoup écrit, presque toujours, en écoutant les mots, n'est-ce pas?
Oui, je lis comme ça aussi.
Comment en êtes-vous venu au théâtre?
C'est une commande. On m'a demandé de faire quelque chose pour la radio de Stuttgart.
Oui.
J'avais d'abord refusé énergiquement, parce que je pensais que ma sous-conversation, je ne pouvais pas la...
C'est merveilleux au théâtre.
Et alors finalement, j'ai fait pour la radio, et puis après on les a mises au théâtre.
Vous étiez contente?
Oui,
parce que si
contente.
Vous n'aimez pas lire vos textes, vous aimez bien les entendre.
Mais ça me paraît plus éloigné. C'est un peu comme si j'écoutais quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Le rôle des acteurs, du metteur en scène, c'est une autre création encore à partir de mes mots. Ça les enrobe d'une certaine façon. Je regarde un spectacle qui presque n'est pas à moi entièrement. Alors je souffre moins que quand je relis un texte, j'ai tendance à toujours trouver mauvais ce que je fais.
Ah bon?
Ça, c'est un caractère heureux, si l'on peut dire.
Oui. Arnaud Reckner, qu'en est-il, vous qui êtes spécialiste du théâtre du nouveau roman, qu'en est-il du théâtre de Nathalie Sarraute? Elle y vient relativement tard, elle a passé la cinquantaine, et elle commence dans les années...
Et même la soixantaine.
Et même la soixantaine, et ce sont deux textes, Le silence et le mensonge, qui sont ses premiers textes de théâtre.
Voilà, et on vient la chercher justement, c'est intéressant par rapport au sujet de l'oralité, c'est qu'on vient la chercher pour faire des pièces radiophoniques. Donc, quelque part, les Allemands, qui avaient une tradition de théâtre radiophonique, avaient parfaitement perçu ce qui, dans son œuvre, allait complètement dans ce sens-là. Et alors, elle avait une très jolie expression pour parler de son théâtre et de dire pourquoi c'était au départ pour elle difficile d'y arriver, c'est qu'elle disait qu'elle avait retourné le gant. Dans ses romans, elle s'intéresse toujours à ce qu'il y a sous la conversation. Et au théâtre, on demande de faire passer ce qu'il y a dessous au-dessus, puisqu'on va l'entendre. Mais en réalité, elle garde cette même richesse de ce qu'il y a dessous et cette même étrangeté de ce qu'il y a dessous dans ce qu'il y a au-dessus et dedans lorsqu'elle passe au théâtre.
Elle a longtemps dit qu'on ne pouvait être romancière et auteur dramatique.
Mais en réalité, elle a tout le temps été les deux, justement. C'est ça. Comme je disais tout à l'heure qu'elle était aussi poète. C'est-à-dire que, en fait, c'est cette distinction entre les trois qui n'est pas peut-être juste. La matière qui l'intéresse, c'est la corporalité du langage. Et c'est ça être écrivain. Sous les trois formes qu'elle a choisies, et elle a exploré finalement les trois formes. Puisque c'est du poème en prose, quand même, je pense, Tropisme, c'est vraiment du poème en prose. Oui.
Est-ce qu'on peut parler de personnages à propos du théâtre de Nathalie Sarraute ou de non-personnages? Parce que il s'appelle lui, elle, H2, F1, ils n'ont pas de nom, des personnes.
Oui, enfin, il y a des personnages, on peut distinguer entre des personnages, il y a celui qui se tait, il y a celui qui ment, peut-être. Et puis, dans sa toute dernière pièce, pour un oui ou pour un non, il y a deux personnages distincts, mais ce qui est intéressant, c'est que les rôles sont reversibles. Et en fait, il y a eu des acteurs qui ont choisi d'alterner un soir sur l'autre pour montrer que chaque comédien peut occuper le rôle de l'autre. Donc, on peut éventuellement se présenter comme personnage, mais c'est passager, c'est provisoire, et puis tout se retourne et on devient l'autre.
1982, pour un oui, pour un non, toujours ce même sujet que disent les mots derrière les mots. Oui. La pièce est mise en scène par Jacques Lassalle et jouée par Hugues Quester et Jean-Dominique Barbe.
Bon, admettons, je veux bien, tu n'y avais pas pensé. Mais tu reconnaîtras qu'avec le petit mur, le toit, le ciel par-dessus le toit, on y était en plein.
Où donc?
Mais voyons, dans le poétique, la poésie.
Mon Dieu, comme d'un seul coup tout ressurgit, juste avec ça, ces guillemets.
Quels guillemets?
Ceux que tu places toujours autour de ces mots quand tu les prononces devant moi. Poésie, poétique. Cette distance, cette ironie, ce mépris.
Moi, je me moque de la poésie. Je parle avec mépris des poètes.
Pas des vrais poètes. Bien sûr, pas de ceux que vous allez admirer les jours fériés sur leur socle, dans leur niche. Les guillemets, ce n'est pas pour eux. Jamais.
Mais c'est pour qui, alors?
C'est pour...
Allons, dis-le.
Non, je ne veux pas. Ça nous entraînerait trop loin.
Eh bien, je vais le dire. C'est avec toi que je les place entre guillemets, ces mots. Oui. Avec toi, dès que je sens ça en toi, impossible de me retenir, malgré moi, les guillemets arrivent.
Voilà, je crois qu'on y est.
Extrait de Pour un oui, pour un non, pièce que l'on joue assez souvent. Finalement, la postérité de Nathalie Sarraute, auteure dramatique, est presque aussi importante, si ce n'est plus peut-être comme écrivain.
C'est actuellement le cas et en fait ça revient régulièrement et c'est vrai que actuellement elle est peut-être plus connue, enfin le mieux connue d'une part pour son théâtre et d'autre part pour Enfance.
Qui est son dernier roman qu'elle écrit très tardivement.
Pas tout à fait son dernier, hein. Le roman, enfin le texte, on va pas mettre d'étiquette, elle n'en a pas mise elle-même, qui date de 1983, donc elle était encore assez jeune. Elle lui restait encore quelques livres à écrire, donc non, c'est pas son tout dernier mot.
Mais c'est un texte qui raconte son enfance, ses 12 premières années de vie.
Justement, mais ça tourne autour de la parole. Ça consiste en une vingtaine, même plus, de petites scénettes où une parole est prononcée qui lui est restée et elle essaie de reconstituer la situation où ces paroles ont été prononcées pour mieux comprendre à une distance de 80 ans tout ce qui s'est passé derrière et autour de ces paroles. Donc Sartre raconte son enfance sous le titre « Les mots ». Je crois que le titre aurait pu très bien passer pour « Enfance » de Nathalie Sarraute, qui aurait très bien pu s'appeler également « Enfance ».
Un dernier mot, Arnaud Reckner, sur le théâtre. Est-ce que c'est un nouveau théâtre, comme on a parlé du nouveau roman avec Sarraute?
Alors cela reste un nouveau théâtre, c'est-à-dire c'est un théâtre à proprement parler inouï, ce qui fait que je suis étonné finalement qu'on ne le montre pas davantage, et que ce soit effectivement toujours pour un oui ou pour un non. D'ailleurs on le voit, c'est une Gallimard pourrait le dire, mais au niveau des recettes, des droits, enfin c'est pour un oui ou pour un non quasiment exclusivement.
Et dans le monde entier?
Et alors, pour le coup, je ne connais pas les droits du monde entier, mais malheureusement, Sarraute n'est plus beaucoup, on la connaît beaucoup moins maintenant. C'est très paradoxal et très dommageable. Elle a été traduite dans le monde entier. Mais je pense que c'est aussi parce qu'elle a un niveau d'exigence, et je le disais tout à l'heure, un théâtre inouï. Cela reste complètement nouveau. Comme peut l'être dans un tout autre genre, Marguerite Duras, qui reste révolutionnaire. Et Sarraute est proprement révolutionnaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un temps un peu de conformisme, ou de régression, je trouve qu'elle mériterait d'être redécouverte pour sa force, son potentiel révolutionnaire, justement.
Je dis le plus possible de ce qu'il est possible de dire. J'essaie, avec les mots, d'atteindre le plus loin possible ce qui, d'habitude, n'est pas mis en mots. Mais ce n'est pas du tout des choses que j'essaie de suggérer, du non-dit, ça n'existe pas chez moi. Pour que le langage arrive à aller aussi loin que possible, là où il n'a pas été encore, il me semble.
Dernier mot de Nathalie Sarraute, du moins dans cette émission. La vie, disait-elle, c'est l'opposé d'une œuvre d'art, mais j'ai l'impression, Anne Jefferson, qu'elle n'a fait, et Arnaud Reckner, vous pouvez me confirmer ou infirmer, qu'elle n'a fait qu'écrire la vie, mais sans ces lieux communs dans ce qui nous réunit finalement tous, parce que nous sommes tous possiblement en train de nous interroger entre le oui et le non, entre « tu ne t'aimes pas » et « je t'aime ».
Absolument, oui. En fait, c'était une personnalité très vivante et d'une autre manière aussi, son œuvre l'est également. Et je crois que ça tient du fait qu'il y a toujours quelque chose qui est en cours. Et rien n'est jamais conclu, rien n'est jamais résolu. Et c'est pour ça qu'on a une très forte impression de vie.
Et c'est une œuvre à la fois très atypique, très radicale, vous l'avez dit Arnaud Reckner, mais aussi très simple à lire. Elle a longtemps été taxée d'hermétisme, mais c'est l'inverse de l'hermétisme.
Parce que précisément, elle parle de ce que nous avons tous en commun. Et aujourd'hui, on est en plus dans une époque où on a plutôt tendance à séparer les gens, en genre, en sexe, en tout ce qu'on donne, nationalité, en identité, elle travaille à ce qui fait notre identité commune, c'est-à-dire ce qui n'est plus une identité. Ce sont ces émotions que nous partageons tous, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre sexe, notre nationalité. Et c'est encore pour ça, je trouve, que c'est un écrivain qui mériterait d'être vraiment relu aujourd'hui, parce qu'elle touche à quelque chose de profondément humain.
Et je parle sous votre contrôle, Anne Jefferson, mais elle disait « Quand j'écris, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un chien, j'écris ».
Tout à fait ça, oui.
Merci beaucoup Anne Jefferson. Votre biographie de Nathalie Sarraute est éditée chez Flammarion et l'on vous retrouve demain à la même heure dans l'émission de Catherine Fruchon-Toussaint pour continuer de raconter cette auteure, autrice et son influence. Merci Arnaud Reckner. Plus ancien mais toujours d'actualité sont vos livres sur Sarraute, édités chez José Corti ou Au Seuil. Et bien sûr, on vous retrouve tous pour le colloque de la BNF ce jeudi et vendredi. Merci aussi à la Sonothèque de RFI, à Françoise Delignon pour les archives sonores. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin et Julien Lingue à la réalisation. Rendez-vous demain dans Littérature sans frontières pour la suite.